Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Christophe Mbosson-Kodia, président de l'Assemblée nationale, a au cours de la plénière d'hier mercredi déclaré que les massacres des populations civiles dans l'est de la RDC ont dépassé les bornes du tolérable. Il a affirmé que la RDC est victime de son hospitalité et son obéissance à la communauté internationale. Il invite cette dernière à prendre toutes les dispositions pour que ces groupes armés quittent la RDC et qu'elle les amène d'où ils sont venus. Le président de la Chambre basse du Parlement a par ailleurs réitéré son appel à tout Congolais qui serait impliqué dans les soutiens aux groupes armés dans le Nord Kivu et en Ituri d'arrêter et de se désolidariser de ces groupes qui tuent la population congolaise. Quelle lecture faites-vous de la déclaration du président de l'Assemblée nationale? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons dans cette émission Mohamed Boulay, il est député national et membre du parti politique MLC. Il est général à la retraite, il est expert des questions militaires. Bonsoir, honorable Mohamed Boulay.
Bonsoir.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes député provincial élu de Lubero au Nord Kivu et vice-président de l'Assemblée provinciale de la même province. Bonsoir, Maître Jean-Paul Lumbulumbu.
Bonsoir.
Et professeur Dadi Salé, il est docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Bonsoir professeur Dadi Salé.
Bonsoir.
Bienvenue une fois de plus à tous dans cette émission.
Merci beaucoup.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les massacres de populations civiles dans l'est de la RDC ont dépassé les bornes du tolérable. La déclaration est du président de l'Assemblée nationale. Pour Christophe Mbosso, la RDC est victime de son hospitalité et de son obéissance à la communauté internationale. Au cours de la plénière d'hier mercredi, Christophe Mbosso-Kodia a réitéré son appel à tout Congolais qui soutiendrait les groupes armés dans les Kivu et en Ituri d'arrêter et de se désolidariser de ces groupes armés. Il invite par ailleurs la communauté internationale à prendre toutes les dispositions pour que ces groupes armés quitte la RDC. Christophe Mbosso-Kodia Kwanga est au micro de Michel Kifindangoy.
Ils sont ici depuis 30 ans. Aujourd'hui, ces groupes armés étrangers sont devenus des ennemis du peuple congolais. Ils nous massacrent comme si nous étions des bêtes. Ils exploitent les richesses de notre pays. Ils utilisent le fonds qu'ils retirent de ces richesses pour acheter des armes et tuer les peuples congolais. Nous pensons qu'il est temps que la communauté internationale qui a encouragé l'entrée des ADEF et des Interamoins FLN et de tous les autres groupes d'étrangers prenne aussi conscience. Nous en avons les rats de bord et que ce groupe qu'il y ait un retrait des groupes armés étrangers sur le territoire congolais, qu'on les amène dans d'autres pays et qu'ils quittent la République démocratique du Congo. Nous avons offert l'hospitalité. En retour, ce sont des massacres que nous subissons.
Quatrième jour de manifestation dans les grandes villes du Nord Kivu, c'est pour décrier l'insécurité et les massacres à répétition dans la province. À Beni, par exemple, les activités socio-économiques étaient paralysées depuis ce matin. Les jeunes du mouvement citoyen étaient dans les rues pour demander la fin des massacres à Beni. Les éléments des forces de défense et de sécurité qui sont déployés depuis quatre jours dans la ville tentent de remettre de l'ordre. Reportage de Marc Marofimbo.
C'est une série de manifestations sporadiques qui sont signalées dans les quatre communes de la ville. Les jeunes manifestants s'organisent en petits groupes pour descendre dans les rues avec, disent-ils, comme destination finale, la base de la MONUSCO à Boïkene. Des barricades sont érigées dans plusieurs rues de la ville, notamment dans la commune de Munekera et Orenzori, où les forces de l'ordre et les manifestants se font face. La police et l'unité de l'armée déployée pour lui venir en appui dégagent au fil et à mesure ces barricades. Jusque-là, le trafic est inexistant. Pas de motos ni voitures sur les voies publiques. Les commerces, notamment, restaurants, les alimentations, tout comme les officines pharmaceutiques, restent fermées. Les écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Pour rappel, c'est depuis le lundi que les groupes de pression et certains mouvements citoyens ont décrété 10 jours sans activité à Beni, Boutembo, Lubero pour décrier l'insécurité et les massacres à répétition des civils dans la région. Ces derniers appellent aussi au départ des humanitaires, des organisations internationales, y compris la MONUSCO. Notons que ces manifestations ont lieu malgré la décision du maire de les interdire pour raison de sécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Merci à vous, Marc et Marofimbo. Du côté de Boutembo, des organisations qui ont décrété ces journées villes mortes ont organisé une messe aujourd'hui pour demander à Dieu de rétablir la paix dans la région. Pour sa part, le maire de la ville de Boutembo réitère son appel aux manifestants à ne pas céder à la manipulation et qu'il facilite la reprise des activités afin de ne pas asphyxier la vie de la population. Dans la ville de Goma, cependant, l'appel lancé ce jeudi par le mouvement pro-démocratie Lucha pour exiger la paix dans l'est de la RDC et le départ de la MONUSCO a été très peu suivi. À part les écoles qui n'ont connu aucune perturbation, les banques, marchés, magasins et autres boutiques ont ouvert, mais il n'y a pas eu d'engouement. Quelques militants du mouvement Lutte pour les changements qui voulaient manifester au niveau du poste de la SNL ont été vite dispersés par la police. Mohamed Boulé, vous êtes député national, membre du parti politique MLC et général à la retraite. Vous êtes expert des questions militaires. Les massacres des populations civiles dans l'est de la RDC ont dépassé les bornes du tolérable. Ça, c'est la déclaration du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Poanga. Et quel est-il vous faites de cette déclaration du président de l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup. Je crois que c'est pour la 46e fois que vous m'invitez pour partager, pour participer à cette émission. Et durant ces 45 premières émissions, nous n'avons parlé que de la situation sécuritaire et principalement en ce qui concerne le Nord Kivu et Beni en particulier. Je crois que nous commencerons d'abord par nous incliner devant la mémoire de toutes ces personnes aussi chères que nous cessons de perdre dans les conditions aussi atroce. Ces massacres ont duré, oui. C'est depuis l'avènement ou l'entrée de l'ARDL est appuyé certainement parce que ce mouvement rebelle-là, la Vouala a été appuyé par la communauté internationale. Depuis ce qu'on connaît avec l'assassinat ou la mort des présidents, le président fut le président Habyarimana, du Rwanda et son collègue du Burundi, et il s'en est suivi que avant que l'armée de rebelles à ce moment-là, l'FDR, prenne le pouvoir au Rwanda, et la communauté internationale, par le truchement de la France, a imposé ce qu'ils ont appelé les couloirs humanitaires, sans avoir permis aux forces armées à la République démocratique du Congo de s'assurer que ce qui entrait était réellement que des civils. Or, on a vu se déverser tout le monde et une partie, une bonne partie presque de l'armée rwandaise, de fait, avec armes et munitions. Et des raisons qui ont prévalu pour que cette guerre-là, l'assassinat dans des camps de réfugiés commence, c'est au motif que des assassins ou des militaires de l'ancien régime qui étaient là, il fallait les traquer et les pousser hors de notre territoire. Avec la FDL, nous savons comment il y a eu beaucoup de troupes, donc des mercenaires particulièrement, des pays limitrophes. Le Rwanda a offert beaucoup d'éléments dans ses contingents, y compris les autres pays comme le Burundi, l'Érythrée, l'Ouganda et bien d'autres, qui sont venus pour participer à ce qu'ils ont appelé la guerre de l'AFDL. Et depuis lors, on a commencé à vivre petit à petit des massacres qui dépassent hors norme. Aujourd'hui, on en arrive aux égorgères. J'ai aimé, lorsque la secrétaire générale honorable Bazaïba s'est interrogée à quand allons-nous qualifier ces faits-là de génocide. Parce que dans des familles où on tue une maman, où on tue des enfants, où on voit à côté d'une maman inerte tuée avec son enfant qui tète, et cela n'interpelle pas la conscience de la communauté internationale. C'est l'affaire des Congolais seulement. J'ai voulu en introduction
donner ces éléments parce que c'est important. Nous nous sommes beaucoup tués et il est temps pour qu'une commission parlementaire responsable puisse investiguer pour amener les éléments et permettre à l'Assemblée nationale de faire des recommandations aux décideurs.
La RDC connaît, ça c'est des notoriétés publiques, notre pays connaît une panoplie de groupes armés étrangers éparpillés sur son territoire, les EDF ougandais, les RDLR rwandais, les FNL burundais, et ça c'est au sud et au nord Kivu, les FLEC, FLAC, Kabindé au Congo central, les Mbororo, l'armée du Seigneur, les supplétifs des rebelles libyens dans l'ex-province orientale. Vous avez évoqué, vous avez parlé de ce problème en rappelant, n'est-ce pas, l'AFDEL, mais on sait qu'il y a des groupes armés comme les FLEC, FLAC, Kabindé qui existaient sur le territoire congolais avant l'AFDEL. Comment en est-on arrivé là, Mohamed Boulé?
Oui, comme vous savez, à une certaine époque, le préfet Maressa Mobutu, ici en Afrique centrale, était l'enfant chéri de certaines puissances étrangères. Et vous savez qu'on ne peut pas faire une rébellion sans avoir un appui extérieur. Et malheureusement, les années qui ont suivi l'indépendance, notre pays a un peu servi pour donner l'espace à certains mouvements de rebelles, comme vous les citez, FLEC et tout ça, et autres. Même les mouvements rebelles de l'Ouganda avant que le président Museveni ne prenne le pouvoir, mais vous voyez que c'est dans notre pays que beaucoup de choses se sont faites. Et aujourd'hui, on se trouve envahi par ces mouvements rebelles que vous citez. Et particulièrement dans ma province, la province du Bazouélé, depuis 2005, les RLA est là, depuis Otouélé, avec tout ce qu'on a connu à Faradje, à Dungu, à Bangadi, et dans les territoires d'Ango particulièrement, comme si cela ne suffisait pas, s'ajoutent donc des éleveurs Mboro. Les Mboro, ce sont des vaches marcheuses, là. Et ces bouviers se constituent de moins de 17 pays africains. Nous, on a entendu dire que, voilà, ce sont les réfugiés climatiques, alors que parmi eux, il y a d'autres qui ont des armes. Et lorsqu'il y a eu la concertation nationale ici, en son temps, et le président sortant avait, dans son discours de clôture, dit, c'est déclaré, les Mbororo, d'avoir un même traitement comme les groupes armés étrangers parce qu'ils étaient porteurs d'armes de guerre. Et la plupart de ces bouviers, ce sont des ex-rebelles des forces sous Gukuni au EED et d'autres centrafricains. Aujourd'hui aussi, ils s'ajoutent les rebelles centrafricains, Séléka et autres, qui sont de plein pied sur le territoire congolais avec la porosité de nos frontières, un peu partout. On n'a pas les moyens nécessaires en hommes et en unités spécialisées pour traquer cela, encore moins les forces de défense aux frontières. C'est cela le problème. Au niveau du quartier général et de notre armée, cette situation est bien tenue et bien connue. Mais les sémages de ces mouvements rebelles n'inquiétaient pas. On dit qu'ils doivent cesser. Mais c'est la haute trahison. La Constitution les prévoit. Et ces gens qui sont responsables de l'appui, devaient passer par des juridictions militaires et répondre des actes. Nous ne sommes pas encore décidés par une loi formellement pour l'abolition de la peine capitale. On a vu autrefois les forces armées. On a vu par exemple le premier mouvement rebelle, c'est lui, Ngalo, qui a tué des feintes en noirité, condamné à la peine capitale et exécuté pour décourager les autres à emboîter les pas. On a vu pendant la guerre des 80 jours, des officiers supérieurs, pour avoir manqué au devoir d'honneur sur les champs de bataille, condamnés à la peine capitale. On a vu ici à Kinshasa, même un officier, pour avoir seulement pris une boîte de sardines, parce qu'à ce moment-là, quiconque prenait les matériels ou les équipements, les effets destinés pour la guerre, c'était la trahison, il a été condamné ici à la peine capitale et la sentence est tombée. Et voilà qu'aujourd'hui, tous ces mouvements rebelles, qu'on connaisse leurs fondateurs ou leurs commanditaires, mais ils sont aménagés sur les plans politiques et tout ça pour réintégrer l'armée.
Merci.
C'est ce qui pose problème. Qu'est-ce que fait la justice tout court dans notre pays? Il faut s'interroger.
Merci Mohamed Boulet. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete et du Nord Kivu. Vous êtes aussi député provincial élu de Lubero au Nord Kivu et vice-président de l'Assemblée provinciale de la même province. Honorable Jean-Paul Lumbulumbu, comment vous réagissez à cette déclaration faite hier à l'Assemblée nationale par son président lorsqu'il dit que le massacre des populations civiles dans la RDC ont dépassé les bornes du tolérable?
Je voudrais, avant de réagir à la réaction de l'honorable président de l'Assemblée nationale, dire encore toute ma compassion, toute ma solidarité, toute ma compassion et mes condoléances à toutes les familles des victimes des massacres de Beni. Je voudrais donc dire pour les femmes, la population de Beni, la population de Lubero, la population de Masisi, où en ce moment il y a un groupe armé composé de APCLS et de Nyatoura qui vient de s'emparer du village de Moreto à Masisi. Je voudrais dire encore à cette population. Je voudrais en même temps faire un appel au calme et à la non-violence à toutes les manifestations qui sont observées autant à Goma, à Butembo et à Beni, et dire que le président de l'Assemblée nationale n'a fait que traduire l'essence des déceptions, des désolations de la population de Beni, de Bembo, de Lubero, de Masisi, de Rutshuru, de Walikale, partout où pilent les armées, lorsqu'il dit que les massacres ont dépassé les bornes du tolérable. Eh bien, nous ne faisons que constater cela par la population de Nord Kivu dit assez, et assez. C'est pour cette raison qu'il a décidé de manifester. Nous regrettons que cette manifestation soit émaillée de violence, mais nous pensons qu'il est des droits de cette population qui est régulièrement, quotidiennement victime de massacres, des affres de guerre, de pouvoir s'exprimer de cette façon-là. Sauf que nous condamnons les dérapages, nous condamnons le vandalisme de certains manifestants. La prise de position de l'honorable président de l'Assemblée nationale, à mon avis, et qui est à saluer, et qui nous soutenons, c'est une prise de position qui, à mon avis, doit être traduite en politique. Ça veut dire que le gouvernement Samaloukonde et que la population du Nord qui vous attend de pied ferme devrait prendre ça comme une politique. Si les massacres ont dépassé les bornes du tolérable, j'imagine que le gouvernement, j'imagine que l'Assemblée nationale, qui est l'organe délibérant, qui est l'autorité budgétaire, prendra alors des décisions qui s'imposent sur le plan budgétaire pour nous rassurer qu'à travers le budget, on sent vraiment que l'Assemblée nationale se soucie du vécu quotidien des victimes de massacres de Beni. C'est pour cette raison que nous saluons en même temps la mise sur pied par l'Assemblée nationale d'une commission ad hoc spéciale chargée des tueries à l'est de la République. Et nous pensons que cette commission devra faire la différence avec d'autres commissions, parce qu'on a connu d'autres commissions de l'Assemblée nationale. Nous avons vu même des chefs d'État qui sont descendus jusqu'ici à l'est de la République. Nous avons vu le président Joseph Kabila, je crois, deux fois. Le président Félix Tshisekedi, il a déjà été ici à maintes reprises, toujours dans la question sécuritaire. Mais sans que cette commission de l'Assemblée nationale viendra matérialiser cette expression du président national de l'Assemblée nationale, qui nous, tout comme la population du Nord Kivu, que nous représentons légitimement, que ces massacres ont dépassé les bornes du tolérable.
Honorable Jean-Paul Lumbulumbu.
Oui,
nous avons évoqué avec le député Mohamed Boulet ces groupes armés, n'est-ce pas, qui sont éparpillés sur le territoire congolais. Nous avons les ZDF, nous avons les FDLR, nous avons les FNL, nous avons les FLAC, nous avons les Mororo, l'armée du Seigneur, les supplétifs des rebelles libyens. Et de tous ces groupes armés, ce sont uniquement les ex-combattants rwandais, les FDLR, qui sont établis sur notre territoire, peut-on dire, sur demande, n'est-ce pas, de la communauté internationale, mais les restes des groupes sont là par les faits, selon beaucoup d'analystes, de la défaillance de l'État congolais. Et à votre avis, quelle devrait être la part de cette communauté internationale et celle du gouvernement congolais?
évidemment, comme vous avez si bien identifié, l'insécurité ou les tueries à l'est de la République, particulièrement dans la province du Nord-Kivu, sont les faits de sortes de groupes armés. Nous avons les groupes armés internes, une quarantaine de groupes armés au niveau interne, mais également nous avons des groupes armés d'origine étrangère, c'est notamment les groupes armés venus de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. C'est là que j'ai aujourd'hui la question sécuritaire au niveau de l'Est de la République qui doit être pensée en tenant compte des données externes, notamment de la sous-région des Grands Lacs, mais tout comme il doit avoir une approche au niveau interne. Il faut différencier l'approche au niveau externe et l'approche au niveau interne. Je pense que la communauté internationale n'est pas à dénier dans cette insécurité, parce qu'on se rappelle que en 1994, lorsqu'il y a eu chute du régime du président Habyarimana, la population zaïroise à l'époque a crié le fait que la communauté internationale a laissé librement entrer en République démocratique du Congo. D'ailleurs, à l'époque, on avait même imposé au Premier ministre Kengo Atondo d'accepter que les réfugiés puissent entrer, et malheureusement, c'est avec des armes. C'était des militaires qui venaient du régime rwandais, qui sont entrés avec munitions, avec armes, et comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est notre hospitalité qui vient d'être le résultat de tout ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ce sont ceux-là que nous avons reçus hier avec dans le respect des normes de la communauté internationale. Ils se retournent aujourd'hui contre la population congolaise et ils coalisent avec beaucoup d'autres Congolais pour les faire auteur de massacres, de tueries, de viols et même de pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo.
Oui, l'on parle beaucoup plus de la communauté internationale. L'on évoque aussi la RDC, mais on a du mal souvent à évoquer ce que doit être l'apport des pays d'origine de ces groupes armés. Le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan, la Libye, l'Angola, le Burundi, le Tchad devraient en principe s'impliquer dans cette démarche pour espérer voir un jour ces rebelles retourner chez eux. Sinon, tout ce qui sera fait sans ces pays d'origine sera voué à l'échec, n'est-ce pas, honorable Mulumbu?
Je suis d'accord avec vous, mais pour la population congolaise, et pas seulement celle de la province du Nord Kivu, si une quelconque démarche devra être entreprise pour solliciter la contribution de ces pays d'origine dans la fin de l'insécurité à l'est de la République, la démarche c'est dire, écoutez, au niveau des Nations Unies, nous avons pu expérimenter ce qu'on a appelé la force d'intervention ou la brigade d'intervention des Nations Unies. Nous l'avons vu il n'y a pas quelques années à Goma, la ville de Goma a été prise en étau par un mouvement rebelle, le M23, qui était notamment soutenu par des forces étrangères, notamment le Rwanda. Et nous avons vu comment la brigade d'intervention des Nations Unies a apporté son appui au FARDC et le M23 a été défait. Donc au niveau des Nations Unies, nous pensons qu'il est possible qu'on puisse solliciter l'intervention des forces étrangères, des forces spéciales du type Artemis qu'on a connu dans l'ex-province orientale, à Bounia notamment, que ces genres de forces interviennent pour essayer d'aider le Congo à recouvrer la sécurité de ses concitoyens. Il faut se limiter à l'approche sous-régionale. Mais écoutez, la méfiance aujourd'hui entre peut-être la population de l'Est face au Rwanda, face au Burundi, face à l'Ouganda, ne permettra pas, par exemple, que dans une telle force, qu'on puisse retrouver les Rwandais. Parce que ça créerait beaucoup de problèmes. Donc la donne devrait être analysée plutôt au niveau des Nations Unies pour essayer de voir quelle est la force de la communauté internationale qui peut venir en appui au FARDC pour mettre un terme à l'insécurité, notamment dans la région de Bénin où nous avons des populations entières qui continuent à être victimes de massacres de Zadef Malou.
Oui, vous avez rappelé l'intervention d'Artemis à Nitour il y a de cela quelques années, mais on se rend compte qu'après cette intervention, c'est vrai qu'il y a eu un long moment d'accalmie, mais la situation aujourd'hui, elle redevient, n'est-ce pas, comme à l'époque. Et vous ne pensez pas que par rapport à cette expérience d'Artemis, il faut plutôt un travail de fond qui soit fait au niveau interne? Les forces internationales viennent, appuient le FARDC. Lorsque ces forces se retirent, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait un travail qui soit fait par le gouvernement congolais pour consolider la paix. Vous voyez ce qui se passe à Ituri aujourd'hui?
Évidemment, si la communauté internationale doit intervenir pour ramener la paix,
Mais la question de la stabilisation relève de la compétence du gouvernement congolais. Ça veut dire que le travail de stabilisation, s'il n'y a pas eu une bonne politique de stabilisation en Ituri, ça peut être une raison pour laquelle la situation redevient comme il y a quelques années. Donc le travail de stabilisation également qui devra accompagner le tour de la paix, c'est un travail, ça doit être un programme qui prévoit le gouvernement.
Merci.
Et dans lequel le gouvernement doit travailler avec avec des partenaires notamment. On ne peut pas guimenter, faire croire à l'opinion que le massacre à l'est de la République n'est que le fruit de groupes armés externes. Il existe également des groupes armés internes, une quarantaine identifiée dans la province du Nord Kivu.
Professeur Dadi Salé, je rappelle que vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Et comment vous analysez cette déclaration du président de l'Assemblée nationale et de la RDC, M. Christophe Mboso Nkodia Mpwanga?
Pour ne pas répéter peut-être les co-débatteurs, je pense que ce que le président de l'Assemblée a dit est tout à fait vrai, qu'il a eu dit à l'aide de la République, ça devient plus qu'intolérable depuis des années, ça c'est pas faux, et que effectivement il y a un parti du problème qui est aussi de la communauté internationale, où on sent que la communauté internationale a une grande main. C'est fait en République démocratique du Congo. Donc, je voulais essayer de passer un peu sur le fait. Ça reste vrai, globalement, mais je pense personnellement que parfois, il y a une petite confusion entre le pouvoir. Il est le numéro un du pouvoir législatif. Et nous avons trois pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Alors, le vrai problème, c'est que, normalement, selon moi, selon mes propres analyses, le rôle du président de l'Assemblée, le rôle des députés que nous connaissons tous, lisez l'article 100 de la Constitution, tout le monde connaît, c'est faire des lois, légiférer et contrôler les actions du gouvernement. Normalement, là, ce sont des constats. Et je ne pense pas que nous puissions avoir un simple Congolais qui puisse dire l'inverse, que la situation à l'est de la République, ou bien en République démocratique du Congo, est plus que catastrophique. Là, vous n'allez pas en trouver. Mais je me pose plutôt des questions par rapport au rôle. Qu'est-ce que j'insinue par là? Disons la vérité. Sachant que la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, et a un indice de développement très faible, 0,4 pratiquement, on est parmi les derniers, selon PNUD, et que nous savons très bien que la République démocratique du Congo a plus ou moins 40% de son PIB, ça va, qui est fourni par l'agriculture. Je vais arriver pour comprendre maintenant comment est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir facilement. Et que 28% fourni par des forêts, les mines, les industries et tout le reste. Donc, s'il y a des territoires qui sont occupés, ça signifie tout simplement que sans la paix, on ne peut pas arriver à faire décoller la machine économique et développementaire de la République démocratique du Congo. C'est pas ricochet, il faut, sachant qu'en diplomatie, on dit, ça va, il n'y a que des intérêts pour les nations. Il n'y a pas question de bonne volonté, comment vous vivez, est-ce que vous êtes bien, est-ce qu'on égorge vos personnes. Ça, ce sont des considérations un peu que je pense qui ne devaient pas être pris trop en considération malheureusement. Ce qui fait qu'on a un problème de leadership qui continue de croire qu'il y a quelqu'un qui va faire sortir la République démocratique du Congo du problème dans lequel nous sommes. Ce qui est une aberration en diplomatie. Si certaines nations profite effectivement de cette faiblesse de la nation pour piller les minéraux comme on les sait. Il y a beaucoup de rapports, mapping, il y a beaucoup de rapports qu'on connaît, pour piller, déstabiliser, comme on dit, c'est la gâchette de l'Afrique. Alors ils n'ont pas intérêt à ce que la République démocratique du Congo puisse recouvrir d'indépendance dans ce sens-là. Alors parlons un peu du budget. Le budget, tout le monde en a parlé, est trop faible. Donc là, où nous avons plus de 300 000 hommes et nous avons un budget de moins de 8 dollars par mois par personne de l'armée ou bien toutes les activités. Donc c'est difficile de payer les militaires et c'est difficile effectivement de le mettre dans des conditions de bataille pour défendre la nation. Donc l'intervention, pour moi, du président de l'Assemblée, qui est le pouvoir législatif, et heureusement nous avons des honorables qui sont avec nous dans l'émission, leur rôle, c'est de faire des lois ou bien adapter les lois pour que la société et la population puissent mieux vivre. Alors là, la question sécuritaire s'est posée avec acuité je me pose des questions. Là, j'ai entendu parler des contrôles, encore une fois. Ben, on va faire des contrôles. Je pense qu'il faut prendre la question avec tout son sérieux.
Oui, professeur Nathalie.
C'est très grave.
Professeur Nadi Salé, on ne parle pas souvent, c'est une question que j'ai posée aussi à l'honorable Lumbulumbu, on ne parle pas souvent, n'est-ce pas, de ce que doit être l'apport des pays d'origine de ces groupes armés. Hein, et on a tendance à incomber toute la faute à la communauté internationale, à incomber toute la faute, n'est-ce pas, à la défaillance de l'État congolais. Mais à votre avis, comment peut-on arriver à amener les pays d'origine de ces groupes armés à pouvoir s'impliquer dans le retour de leurs rebelles?
Je suis effectivement la réponse de l'honorable maître Lumbulumbu, que j'admire, et il a tout à fait raison. La vraie question, c'est que est-ce que nous avons le même intérêt avec ces pays d'origine qui ont des groupes armés, à l'occurrence le Rwanda, Burundi, Ouganda. Donc, c'est vrai, il faut cette manche de diplomatie, ça c'est sûr et certain, il faut abandonner la diplomatie, ces approches-là, mais il ne faut pas trop y compter. Puisque apparemment, il y a beaucoup d'intérêts de certains pays qui ne sont absolument pas les intérêts du Congo. Certains pays se développent effectivement par rapport à cette faiblesse du Congo. Donc, il faut être vraiment penser que cette approche où on doit négocier, palabrer avec ce pays d'origine de ces groupes armés qui parfois se disent comme, excusez-moi de les citer, comme l'Ouganda, le Rwanda, ok, on s'en débarrasse. Puisque s'ils arrivaient dans notre pays, ils viendraient encore, ils mettraient un peu trop des troubles chez nous, ok, qu'ils restent au Congo, qu'ils pillent, qu'ils font ce qu'ils puissent faire, ce qu'ils sont en train de faire. Et parfois, il y a même des soupçons de soutien de ce pays à ces groupes armés, d'une façon ou d'une autre. Donc cette approche, monsieur le journaliste, il faut faire de la diplomatie, mais en tant que Congolais, avoir les tueries qui sont en train de se passer à Beni et Ringeti, dans toute la République démocratique du Congo, il ne faut pas trop y compter. Il faut appliquer la stratégie et ma philosophie Kujitegemea. C'est prendre en charge. Donc on doit avoir une armée, une défense forte, dissuasive. Parce que si nous avions un leadership fort, éclairé, je précise, un leadership fort, éclairé. Parce que pour moi, je me pose des questions. Pourquoi jusque-là, nous n'arrivons pas, ça va, à décréter un état même d'urgence ou bien se dire, là, nous sommes en guerre. Parce que nous sommes en guerre. Et ce n'est pas une question d'Est. Les gens qui parlent de l'Est, je pense qu'ils jouent le rôle, entre guillemets, de l'ennemi. C'est toute la République démocratique du Congo qui est occupée. On a plus de 120 groupes armés en République démocratique du Congo. Le fait de dire l'Est, ça va faire en sorte que vous voyez comment est-ce que l'honorable président a taxé certains députés, peut-être à tort et peut-être à raison, de participer dans des groupes armés.
Merci. Nous allons maintenant écouter les auditeurs hein, qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Et honorable Mohamed Boulet, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. La déclaration du président de l'Assemblée nationale est à mon avis salutaire et responsable car elle traduit la volonté et les soucis manifestes de cette haute autorité de voir l'insécurité éradiquée dans toutes ses facettes en RDC, car le peuple congolais en a tant souffert. Certes, la RDC est victime aujourd'hui de son obéissance et de son hospitalité face à la communauté internationale. La puissance d'un État se définit par sa capacité de faire faire, d'interdire de faire et de refuser de faire. Donc, il est plus que temps que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités pour déloger tous les groupes armés qui insécurisent les paisibles citoyens congolais en usant soit de la diplomatie, la force, ainsi que tous les autres moyens tendant à pacifier définitivement le pays dans sa partie est.
Mohamed Boulet.
Tu as raison de soutenir ce que le président de notre chambre a dit tout haut, ce qui n'a jamais été entendu depuis des années. Et c'est vrai, je voudrais aussi porter un éclairage. Ce que vous êtes revenu plusieurs fois pour dire, ces pays dont les leurs sont dans notre territoire ne s'impliqueraient pas. Mais ils n'ont pas intérêt. Mais l'Ouganda, il est bien à l'aise lorsque ces éléments LRA qui étaient vers le nord du pays se retrouvent très loin de ses frontières et en République démocratique. Et même pour le Rwanda. Parce que comment comprendre Combien de réunions n'a ton pays, des systèmes, des mécanismes, des contrôles et tout ça? Ça n'a jamais produit aucun effet. Et alors, lorsque la FIDEL était ici, le chef d'état-major de l'armée, de notre armée à l'époque, c'était un Rwandais. On a traversé ces pays de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, partout. Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, ils n'ont pas pu capturer tout ça? Et aujourd'hui, les résiduels de ces FDLR, même les enfants, leurs enfants nés des mariages qu'on connaît ici dans notre pays, sont considérés comme plus dangereux par les pouvoirs en place. Nous n'avons entendu ça. Et alors, comment voulez-vous qu'ils s'impliquent dans ça? Ils ont des missions, ils viennent, ils répondent aussi au nom dit de leur pays respectif lorsqu'ils viennent intervenir dans notre pays dans le cadre de différentes opérations, Artemis et autres.
Et donc, ce qui est beaucoup plus efficace, n'est-ce pas, c'est de ne pas beaucoup tabler sur la communauté internationale, mais voir comment on peut amener la RDC à avoir la possibilité de renforcer son armée pour s'occuper elle-même de ces groupes armés étrangers qui sont en train, n'est-ce pas, de sévir sur son territoire.
Mais si pour former les Special Forces, depuis lors avec les moyens que nous avons, la communauté internationale pourrait toujours nous aider. Les États-Unis, dernièrement, ont manifesté la reprise de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. On ne refuserait pas. Mais pour former nos éléments, il y a des phases de formation et des phases de formation continue et surtout des unités spécialisées dans les domaines. Nous avions le centre d'entraînement commando de Kotakoli et à Kisangani pour la brigade commando des chocs. Pourquoi on ne reprendrait pas? Pourquoi on ne formerait pas nous-mêmes? Merci. Alors que hier, nous avons formé à Kitona, je suis de ces formateurs-là, qui les Rwandais, les Sénégalais et autres, et nous n'avons pas cette capacité-là aujourd'hui? Je vous dis oui, il faut qu'on donne les moyens. Nous savons, nous avons toujours dit, ce n'est pas avec les visions nationales qu'on peut mettre, acquérir tous les moyens nécessaires pour notre armée, pour la formation. Il faut un budget spécial, et c'est dit dans la loi. La loi de programmation militaire.
Merci, honorable Boulay.
Dit et jamais cette loi n'est déposée devant notre chambre.
Merci, honorable Boulay. Je sais que chaque fois que vous intervenez dans cette émission, vous revenez sur cette loi de programmation, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas écouté. Honorable Lumbulumbu, vous allez aussi réagir à la réflexion de cet auditeur qui nous appelle une fois de plus de Kisangani. C'est Guy qui nous appelle de Kisangani.
Guy Lifafou, depuis la ville de Kisangani. C'est un discours important pour rappeler à la conscience de tout le monde impliqué au massacre des civils à l'Est, état qui est l'autorité de la République. Par contre, je suis surpris de l'entendre de sa bouche, comment la RDC, un pays souverain, peut être victime de la communauté internationale. Malheureusement, c'est un discours qui ne sera sans effet. Je pense que le Parlement doit plus travailler pour équiper les militaires, améliorer l'air social en votant un budget conséquent et mettre la pression sur le gouvernement pour trouver la solution et non des simples discours qui ne donnent rien.
Jean-Paul Lumbulumbu.
Je pense que l'auditeur va traduire ce qu'a été l'introduction de mon allocution dans cette émission, c'est de dire oui, qui a dit cette phrase, c'est le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'organe budgétaire, c'est l'autorité budgétaire. Nous espérons que cette prise de position sera traduite en politique budgétaire et que nous allons voir la réelle volonté du président de l'Assemblée nationale de voir le massacre prendre fin par le budget conséquent qui sera alloué au FRDC, notamment parce que lorsque nous voyons par ailleurs les conditions dans lesquelles vivent nos militaires, je vous rassure que ce sont des héros qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Ils travaillent dans des conditions indescriptibles et qui n'encouragent pas à l'armée de faire très très bien son travail. C'est pourquoi moi j'ai dit, j'ai salué cette prise de position du président et de l'Assemblée nationale. Oui, c'est un appel à la conscience collective pour tout le monde de pouvoir se décourager de l'implication à l'appui au groupe d'armée. Mais je pense que c'est l'occasion ici aussi de rappeler qu'en ce qui concerne les groupes d'armées internes, il tarde sur la table du chef de l'État la signature de l'ordonnance qui doit légaliser la commission interprovinciale de mobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation. cette ordonnance, aussitôt qu'elle est signée, parce que ce ne sont pas des moyens qui manquent, vous l'avez dit, le pays ne travaille pas seulement avec nos propres moyens budgétaires, les moyens des partenaires également peuvent jouer un rôle, et bien la Banque mondiale a déjà signé et qu'elle est disposée à accompagner le processus de démobilisation, près de 180 millions de dollars qui avaient été appliqués, mais à cause du retard de la signature de l'ordonnance devant reconnaître cette commission-là, et bien tous les groupes armés internes qui tuent, qui violent, qui pillent, même titre que les groupes armés externes, sont là, alors qu'ils avaient déjà signé des actes d'engagement, qu'ils étaient prêts à quitter les groupes armés, à rejoindre la vie civile et la vie militaire pour ceux qui veulent être des militaires, suivre les cursus de formation normale. Ça veut dire que là également, il va falloir que, au niveau de la présidence, que ceux qui sont proches du chef de l'État le rappellent la nécessité de la signature de cette ordonnance.
Merci.
Qui devra mettre en place la commission interprovinciale de démobilisation, désarmement et démobilisation, parce que...
Merci, Jean-Paul Lumbulumbu. Professeur Dadi Salé, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma, au nord Kivu.
Tchébéa Amani, je vous appelle depuis Goma. Nous saluons le courage exceptionnel de cet hôte du gouvernement congolais qui prend ses risques de dire tout haut ce qu'étant déjà disait à voix basse depuis une nuit de temps. Le Congo subit les conséquences de son hospitalité et des accords signés dans les années précédentes. Il est temps qu'un l'on s'élève comme un seul homme, afin de dire non et c'est assez. Nous en avons marre. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités face à ces problèmes persistants auxquels elle connaît les racines et au président Félix Tshisekedi de matérialiser ses promesses tenues aux populations de l'Est.
Professeur Dadi Salé.
Oui, M. Amani a tout à fait raison. Il faut se lever comme un seul homme. Mais faisons attention à l'introduction de l'émission. Vous avez bien compris que on se lève comme un seul homme. Il y a des divergences. Certaines personnes vont dans la rue, d'autres dans des groupes armés et d'autres, etc. Raison pour laquelle, pour ne pas répéter, hein, parce que on a déjà notre problématique qui est là. Mais quelles sont les pistes des solutions, n'est-ce pas, pour y arriver? Parce que l'auditeur a tout à fait raison. Pour une fois, quelqu'un l'a dit en haute voix. Mais je l'ai dit quand j'étais en train d'intervenir, qu'il est l'autorité du pouvoir législatif. Il faut bien qu'on puisse comprendre les rôles de tout un chacun. Donc, il faut légiférer pour atteindre les objectifs et les besoins de la population. C'est ce qui manque. Nous avons un problème grave où il y a des tueries, où on égorge des gens, où on pille la République, mais les lois restent statiques par rapport à la sécurité. Je suis en train de le répéter. L'honorable Boulé vient de le dire, il y a eu beaucoup de commissions parlementaires pour contrôler. Il y en a eu. On peut encore en avoir. Mais on connaît déjà ce qu'il y a. C'est un peu comme si on ne connaissait pas ce qu'il y a. Il faut poser des questions, c'est clair ce qu'on a. Il nous faut, selon moi, une loi spéciale, et ça c'est le rôle des députés. C'est pas d'abord le rôle du président, même si le président peut aussi le faire, parce qu'il peut aussi proposer des lois. Il nous faut une loi spéciale, où les députés, avec un leadership fort, avec le président de la République, vont se dire, prenons le problème à bras le corps. C'est pas, on continue à raconter des histoires comme si on n'avait pas le pouvoir. C'est là un peu ce que j'ai dit.
Merci Mohamed Boulé, nous sommes à la fin de l'émission, nous allons conclure. Et qu'est-ce qu'il faut finalement pour ramener la paix?
Il y a les dispositions pertinentes de la Constitution sont assez claires en ce qui concerne les missions des forces armées. Et donc, complétées aussi par la loi organique et portant organisation et fonctionnement des forces armées, d'une part, et d'autre part, il en est de même en ce qui concerne la police nationale. Voilà, c'est sur ces deux segments-là, ces deux institutions, si je peux encore me permettre ça, qui sont commis. Mais il faut leur donner les moyens pour leur formation, la formation continue, pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Merci.
Pour assurer l'intégrité du territoire national.
Merci, honorable Boulet. Honorable Jean-Paul Lumbulumbu, il faut ramener la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce que vous proposez? C'est votre conclusion.
Je propose le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment par la dotation d'un budget conséquent, mais également par des contrôles réguliers de l'affectation de l'argent qui est affecté et qui est affecté aux opérations militaires.
Merci, professeur Dadi Salé. Après la loi spéciale que vous avez suggérée, que faut-il faire encore pour ramener la paix de façon durable sur toute l'étendue du territoire national? En RDC.
Oui, Oui, je viens de Beni il y a quelques jours, de Boulongo, de Ringeti. Je peux vous assurer que les gens en ont marre. Il y a vraiment un grand ça ne va pas. Et pour l'instant, à part cette loi-là spéciale qui devra doter, c'est pas contrairement à ce qu'on a dit, mais il faut comprendre que ce sont les renseignements qui gagnent vraiment une guerre.
Merci, professeur Dadi Salé. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Polydor Bassonga, qui était à la technique, à Kéline Kouté et Dona Madimba, qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite des programmes sur Radio Okapi.